Très bien, chers amis, bienvenue à notre séance sur les leçons 22 et 23 du livre d'exercice d'un cours miracle. Ces leçons sont la suite naturelle et logique de nos dernières leçons, surtout de la leçon 21. Nous avons lu, je suis déterminé à voir les choses différemment. Quelles sont ces choses que nous aimerions voir différemment? La réponse nous est donnée dans la leçon 22, où nous lisons « Ce que je vois est une forme de vengeance ». Donc, c'est toutes ces formes de vengeance que la leçon 21 nous invite à voir différemment. Et on peut poser la question en lisant la leçon 22, « Ce que je vois est une forme de vengeance », mais qu'est-ce que cela fait là et qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire partir ces différentes formes, ces différentes pensées de vengeance. Et la réponse à cette quête, à cette demande, nous le trouvons dans la leçon 23, où nous lisons je peux échapper à ce monde de vengeance, j'ajoute de vengeance, en abandonnant les pensées d'attaque. Donc, dans cette série de trois leçons, nous voyons la quasi-totalité de la pratique du cours, qui nous rappelle que ce que nous voyons n'est pas agréable, que le problème est dans nos pensées. Donc, il suffit de voir ce qui se passe dans nos pensées pour faire un choix ferme et déterminé d'abandonner les pensées qui mènent à notre expérience du monde. La paix de Dieu est là quelque part devant nous. Il suffit d'enlever les obstacles à la présence de cette paix pour pouvoir le toucher, le goûter et l'éprouver. C'est une logique très claire et très puissante. Ces leçons mettent encore l'accent sur nos pensées en regardant vers le monde pour nous rappeler que toute l'action est ici à l'intérieur, ce n'est pas à l'extérieur. Et c'est là où nous devons continuer à pratiquer. Très bien. Et voici la leçon 22. Ce que je vois est une forme de vengeance. C'est un titre décapant et cela peut être très surprenant puisque nous pouvons, en regardant autour de nous, dire ce n'est pas un monde de vengeance que je vois, c'est un monde mitigé avec ses points positifs et ses points négatifs. Certaines personnes peuvent dire je vois un monde de beauté. D'autres personnes peuvent dire que je vois un monde déplaisant et désagréable, ou un monde devenu fou, surtout en regardant autour de nous en cette période. Nous sommes maintenant au mois d'avril 2026. Et Jésus, notre guide dans le cours, à qui on essaie de faire confiance, nous dit, en fait, ce que vous voyez, c'est un monde de vengeance. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi il dit cela. Tout de suite, nous pouvons voir, il essaie d'enlever un certain déni dans notre esprit, de corriger notre perception générale du monde et de le faire d'une façon un petit peu décapantée et flagrante. Ce monde n'est pas un monde de beauté. Il faut qu'on commence à comprendre l'origine de cette expérience, de cette perception de vengeance, qui est un mot très fort, une idée très forte qu'il a utilisée. Donc, du fait de cette puissance, de cette force, surtout si vous faites cette leçon pour la première fois, il faut le faire en douceur encore. L'idée n'est pas de tout comprendre et tout appliquer tout de suite. On ne fait pas avec insistance. On cherche à développer un genre d'ouverture progressive dans notre esprit en suggérant ces idées à notre esprit pour que nous puissions être capables d'avancer et de comprendre d'autres nuances de notre expérience et surtout le vrai fonctionnement de notre esprit qui nous a été caché. Donc, cette leçon en quatre points brefs. Nous voulons, nous, et sur le fond de notre esprit, les pensées de jugement et d'attaque, c'est sur l'origine de notre expérience de ce monde, dans une pensée de séparation qui est par la suite projetée sur le monde, c'est sur notre comportement et comment nos jugements et attaques semblent toujours être justifiés avec la question, est-ce qu'elles le sont vraiment? Et c'est une leçon aussi sur notre identification au corps, parce que dès l'instant que nous nous identifions au corps, nos pensées d'attaque vont venir absolument automatiquement et sans contrainte, sans passer par le contrôle de notre conscience. Voilà, maintenant, on peut se poser tout de suite cette question. Si on vous demandait ce que vous voyez dans le monde, généralement parlant, comment est-ce que vous répondriez à ce genre de questions hypothétiques ou questions extrêmement larges? Est-ce que vous auriez eu la tendance ou le réflexe de dire, bah, c'est une demande de vengeance, Bernard, bien sûr. Ce que je trouve encore, c'est important pour nous de lire ces messages, ces titres de leçons, et aussi se demander si on est naturellement ou intuitivement d'accord avec ce qu'il dit, et de voir le décalage au lieu de juste dire, bah oui, c'est une demande de vengeance que je vois. Parce que quand moi je le lis pour en faire une leçon pour vous ce soir, je dis, mais quand même, le titre est curieux et cela peut heurter tout de suite, mais il faut être attentif à cette petite réaction. Est-ce que c'est vraiment un monde de vengeance que nous voyons? Et il l'utilise pour une raison particulière, c'est parce que nous n'avons pas l'habitude de nous rendre compte du niveau de violence dans ce monde. Surtout si nous sommes étudiants de la spiritualité, nous pouvons avoir l'impression que nous sommes censés voir la paix, la bonté et la beauté partout, quitte à mettre un genre de pommade ou voile spirituel sur ce que nous voyons vraiment. Et ce qui peut produire un effet de déni et de refoulement de ce que nous voyons réellement. Donc, ce que nous ne voulons plus faire, nous voulons voir si nous avons mis des lunettes roses sur notre visage, sur nos yeux, en regardant ce monde. Et nous voulons suivre les conseils de notre guide ici et essayer de voir comment son idée peut être juste, en faisant confiance que, bien sûr, il ne va pas nous laisser là, il va nous guider vers la paix. Bien sûr, l'origine de ce sentiment de vengeance l'origine n'est pas dans ce monde, mais dans une condition de notre esprit bien en amont de ce monde. Si vous avez suivi ces leçons avec moi depuis le début, vous m'avez sûrement entendu dire que ce monde a été produit dans la pensée de l'enfant dormant de Dieu, du Fils de Dieu. Donc ce monde vient de la pensée. Et nous n'arrivons pas dans un monde objectif, déjà pendu, déjà créé pour nous. Donc ce monde, il est empreint de ce qui était dans notre esprit au moment que nous l'avons conçu. Et ce qui était dans notre esprit à ce moment-là était une pensée de séparation. On dit pensée de séparation, ça n'a pas l'air très violent, dit comme ça, mais en fait, cette séparation dans la pensée a été accomplie par un acte de violence contre l'unité de Dieu, contre le Père, contre le Créateur, tout uniquement dans la pensée. Cela n'a jamais pu se produire réellement. L'unité parfaite de Dieu, l'unité du ciel sont totalement et parfaitement toujours intactes. Nous sommes simplement en train de vivre une expérience ou un délire de séparation. Néanmoins, dans ce délire, dans cette illusion, dans ce rêve de séparation, tout ce qui appartient à cet esprit séparé sera empreint d'un genre de violence, d'un sentiment de violence, d'un sentiment d'attaque. Quelque part, nous avons l'impression d'avoir attaqué la source. Et par projection, nous avons l'impression maintenant que la source, ou Dieu, va faire exactement ce que nous pensons lui avoir fait. Donc partout où nous regardons maintenant, c'est inévitable que nous allons imaginer un esprit vengeur prêt à nous sauter dessus, prêt à vouloir arracher notre vie. Donc partout où nous regardons, nous voyons, nous imaginons des dangers qui sont toujours bien sûr en rapport avec notre corps. Oui, et ce monde est dangereux pour les corps. Heureusement, nous ne sommes pas ces corps, comme nous avons appris. Ce monde n'est pas dangereux pour l'esprit de Dieu qui reste en nous, l'étincelle de vérité, l'étincelle de notre esprit juste, de notre soi en Christ ou de notre soi, ce soi en nous, cet esprit-là n'est jamais à risque, n'est jamais en danger. Mais dès l'instant que nous identifions avec le corps, nous allons ressentir la culpabilité de cette attaque folle sur l'unité de Dieu. Et avec, par l'effet de la projection, nous allons penser que le monde autour de nous, en pensant à Dieu ou à l'esprit que nous avons imaginé, qui a fabriqué ce monde, que toutes les grandes religions pensent que c'est Dieu qui a fabriqué ce monde, qui a créé ce monde, nous pensons tous que ce Dieu risque de ne pas nous aimer. Voilà. Et nous craignons tout ce genre de vengeance de la part de cette créateur abstrait que dans le coup on l'appelle le faux Dieu. Donc, la vengeance que nous craignons est celle que nous avons projetée sur une image de Dieu, sur un faux Dieu. Et puisque nous ne sommes pas conscients de ce faux Dieu, nous avons l'impression que c'est partout autour de nous. Souvenez-vous que nous ne pouvons pas voir une autre personne différente, d'une manière différente de la façon dont nous nous concevons. Donc nous nous voyons. Tout le monde autour de nous est un genre de copie conforme de nous-mêmes. Oui. Si moi je pense que je suis capable d'attaquer parce que j'ai déjà attaqué, et que du fait d'avoir attaqué, je suis coupable de cette attaque, je vais forcément penser que tout le monde est exactement comme moi. Donc, que je pense que c'est ce genre de grand Dieu abstrait, ou que je pense que c'est d'autres personnes, je vais penser que tous ces différents éléments risquent de m'en vouloir, risquent de vouloir me faire du mal. C'est un schéma, c'est une empreinte, tout un système de pensée que nous ne pouvons pas échapper si nous pensons vraiment être ce corps. Voilà. On peut finir par avoir l'impression que la vie est contre nous, que la vie ne nous veut pas du bien, que on n'a jamais de chance, ou il faut toujours se méfier. Toutes ces idées-là sont des messages de l'esprit de séparation en nous, de l'ego en nous, qui nous dit, bah voilà, tu as fait quelque chose. Et nous devons toujours faire quelque chose de très grave, de très sérieux au départ, et maintenant tu risques de payer le prix fort. Nous devons vraiment faire un effort de nous souvenir que tout cela est archi-faux. Dieu, le ciel, le Saint-Esprit, la beauté, la bonté divine, tout ce qui appartenait à notre maison est encore parfaitement intact. Maintenant, pour faire une petite lecture de quelques phrases de cette leçon qui sont intéressantes, nous lisons dans le premier paragraphe, ayant projeté sa colère sur le monde, il voit la vengeance sur le point de le frapper. On peut se poser cette question, mais c'est quoi l'origine de cette colère? Pourquoi est-ce que je ne ressens pas forcément une colère envers le monde? Jésus essaie de nous dire que c'est sous-jacent à tous nos autres sentiments, tous les autres sentiments que nous pouvons avoir, il y a un genre de colère, puisque quelque part, nous en voulons au monde du fait de ne pas pouvoir satisfaire tous nos besoins de paix, de bonté et d'innocence. Et ce monde, c'est vrai, ne peut pas satisfaire nos désirs profonds de paix et de bonheur qui ne viennent pas de ce monde. Donc, quelque part, nous ressentons une immense frustration, une immense colère d'injustice. Et c'est de cela il parle en particulier. Et tout cela est enraciné encore dans cette pensée de séparation qui donne naturellement cette idée d'imaginer que le monde va contre-attaquer, va essayer de nous faire payer pour notre crime. Nous sommes comme des enfants. Nous pensons toujours que c'est la faute aux autres. Nous ne voulons jamais prendre responsabilité pour ce que nous pensons avoir fait. Nous sommes très aptes et très habiles à blâmer les autres ou blâmer Dieu ou blâmer nos mauvaises étoiles pour notre malheur. Et si jamais nous avions assez confiance et assez de courage, nous pouvions effectivement. C'est ce que nous sommes en train de faire, nous poser des questions et si nous y étions pour quelque chose. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous voulons maintenant prendre responsabilité et avoir confiance que nous n'allons pas être détruits si nous apprenons la vérité par rapport à cette colère, par rapport à ces sentiments de vengeance. Continuons notre petite lecture, le premier paragraphe, nous lisons, sa propre attaque est ainsi perçue comme légitime défense. Donc ici, Jésus tourne vers notre comportement, il parle de notre comportement. Et j'ai envie de vous poser la question, qui n'a jamais eu l'impression que son attaque, son jugement, n'était pas un genre de légitime défense par rapport aux attaques d'autres personnes? Encore, c'est très facile de lire les phrases de Jésus, de glisser dessus, de ne pas vraiment faire attention. Donc, je nous invite juste à nous arrêter quelques instants sur cela, même si c'est... C'est très brièvement que nous arrêtons, mais qui n'a pas eu ce sentiment que son attaque n'était ju pas justifiée? En principe, c'est pour cela que nous jugeons ou nous contre-jugeons ou nous contre-attaquons quand on a l'impression d'avoir été attaqué. Donc, je nous invite tous à juste être attentif à ce genre de comportement, de ne pas les laisser glisser trop sous le radar, parce que ici, Jésus voudrait qu'on mette le doigt spécifiquement dessus. Il nous dit cela, ce genre de comportement fait partie de ce dont cette leçon parle. Une idée de vengeance sous-jacente, souvenons-nous, qui vient d'une pensée de séparation. Un petit peu plus loin dans le paragraphe 2, on peut lire, tu as fait ce que tu voudrais détruire, tout ce que tu es voudrais attaquer et tuer. C'est très fort. Et je voulais juste m'arrêter ici quelques instants pour dire, pour expliquer que macrocosmiquement, oui, Jésus nous dit très clairement que nous sommes responsables pour tout ce monde collectivement. Il dit, tu as fait tout ce que tu voudrais détruire. Donc le monde tout entier et notre fabrication collective, donc macrocosmiquement, cela est vrai. Microcosmiquement, chacun est responsable pour les scènes de sa vie, le propre scénario de vie qu'il voudrait parfois aussi détruire du fait de ne pas aimer ce qu'il a fabriqué. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre cette phrase qui est assez curieuse et aussi assez importante. Et je voudrais terminer cette première partie de cette leçon avec cette phrase, la dernière phrase, quand il parle de ce monde de vengeance et il dit, est-ce là le monde que je veux réellement voir, que tu veux réellement voir? Et là, c'est vraiment la note d'espoir parce que si il pose la question de cette façon, c'est parce que il sait et il veut qu'on sache qu'il y a un autre monde. Et c'est là où nous devons avoir confiance en notre guide qui va nous emmener à comprendre et à voir et à ressentir et éprouver ce nouveau monde qui, comme dans le cours, on appelle le monde réel. Donc, je pense que c'est tout ce qui est nécessaire pour une première pratique, une première lecture de cette leçon. Il nous invite ici à prendre conscience que notre vraie expérience de ce monde n'est pas jolie, que cette expérience vient de nos pensées et pas du monde, que nous avons le choix de le voir différemment et qu'il y a bien un autre monde que nous pouvons voir. Très bien, je vous souhaite une bonne pratique avec cette leçon. Et maintenant, je vais me tourner vers les étudiants avancés qui ont déjà fait cette leçon pour une première fois pour regarder d'une façon plus profonde. Donc, nous avons lu dans ce titre qui parle de vengeance, chers amis. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est véritablement ce que vous ressentez en regardant le monde? Est-ce que, où est-ce que je l'ai? Ce que je vois est une forme de vengeance. Au lieu de glisser dessus Posons-nous cette question, est-ce que c'est vraiment ce que nous ressentons en regardant le monde? Je vous mets un petit peu en garde parce que c'est très facile de trouver un genre de réponse grise, c'est-à-dire non, c'est pas vraiment de vengeance, c'est autre chose, c'est un mélange de choses. Parce que dans le cours, c'est un genre de système de pensée binaire où Jésus nous dit, soit c'est l'amour, soit c'est la peur, soit c'est la paix, soit c'est la haine. Il n'y a pas de zone grise. Donc, si ce n'est pas une pensée d'amour ou de paix totale, alors nous pouvons dire que cela appartient plutôt au domaine des pensées de vengeance. Il nous dit dans la leçon 167, la mort est la seule idée sous-jacente à tous les sentiments qui ne sont pas suprêmement heureux. Je me suis dit, bah, quand même, il met la barre ultra haut là quand il dit que si une pensée, nos sentiments ne sont pas suprêmement heureux, alors c'est une pensée de mort. On peut ajouter de danger ou d'attaque ou de vengeance. Donc, si vous avez connu des sentiments qui ne sont pas suprêmement heureux, on peut considérer que c'est une pensée appartenant à la famille des pensées de vengeance. À trois différentes reprises dans le cours, il a parlé d'une légère irritation, une trace d'irritation, une pointe minime d'irritation, qui recouvre chaque fois un genre de rage intense, rage violente. Donc, c'est encore pour montrer qu'il n'y a pas de zone grise. Soit nous sommes dans le Christ, et à ce moment-là, tout est profondément paisible. Nous nous sentons en sécurité et quelque part détachés, mais d'une façon très positive de ce monde. Pas indifférent, mais détachés positivement dans le sens que ce monde ne nous affecte plus, donc nous pouvons rester bien engagés. Et donc, j'ai envie de vous demander, c'était quand la dernière fois que vous avez ressenti une légère pulsion, une pointe minime d'irritation? Est-ce que vous êtes prêt à imaginer que c'était une forme de vengeance? Ça, c'est pour nos étudiants avancés. C'était quand la dernière fois que vous avez ressenti un petit soupçon d'irritation? Et est-ce que vous êtes prêt à voir que cela appartient à l'esprit qui pense en termes de vengeance? Que cela nous met dans le domaine de l'ego, de la séparation, parce qu'on peut être sûr d'une chose, le Christ en nous ne ressent pas une légère pulsion d'irritation. Donc, c'est ma question. Pour vous, si vous avez envie juste de réfléchir, vous pouvez toujours mettre un petit commentaire dans le feed de chat si vous voulez. Entre-temps, je vais continuer. Kenneth Wapnick, dans son livre Voyage dans le livre d'exercice d'un cours en miracle, nous dit que c'est impossible d'être dans ce monde sans des pensées d'attaque. Sans des pensées d'attaque. Parce qu'être dans ce monde veut dire que nous nous identifions avec le corps. Si nous nous identifions avec le corps, nous allons nous sentir séparés de Dieu, donc nous devons expliquer cette séparation quelque part. Donc quelque part, c'est toujours, ça revient toujours à nous, quelque chose que nous avons fait. Et le corps est le symbole de la séparation, le symbole de la culpabilité. La culpabilité appelle ou une attente. Est l'optique d'être dans l'attente d'une punition future, donc vengeance. Ouais. Donc, acceptons, chers étudiants avancés, qu'être dans le corps, avoir un esprit séparé, nous emmène automatiquement à avoir des pensées de vengeance. Donc, ce n'est pas une question de nous empêcher pour l'instant, d'avoir ces pensées de vengeance, c'est une question de les observer et d'être très, très honnête avec nous-mêmes. Voilà. Le monde, voilà ce que j'ai voulu vous lire, dans les définitions du monde, dans les livres d'exercice, dans la deuxième partie du livre d'exercice, il y a des définitions. Là, sur la définition du monde, on lit, le monde a été fait comme attaque contre Dieu, il symbolise la peur. Donc encore pour dire, on ne peut pas être vraiment se sentir présent et vivant dans ce monde sans les pensées d'attaque et de vengeance. Cela ne nous mène pas vers des expériences agréables, donc le but est de les identifier et de les transformer, bien sûr. Très bien. La difficulté de faire cette transformation vient de notre résistance. Et je vous invite encore, chers étudiants avancés, de regarder la dernière partie de cet exercice où nous lisons « Je ne vois pas, je ne vois que le périssable, je ne vois rien qui durera. Ce que je vois n'est pas réel. » Dans le livre de Kenneth, il nous dit « Je vous mets au défi de vous mettre devant le miroir et de répéter ces phrases. » Donc, imaginons-nous devant le miroir, en train de nous dire, je ne vois que le périssable, je ne vois rien qui durera, ce que je vois n'est pas réel. Ça change légèrement notre expérience de cette leçon. Donc on peut peut-être commencer à ressentir une certaine gêne avec les mots de Jésus ici qui sont censés commencer à ouvrir notre esprit, à ouvrir notre esprit pour comprendre ce monde différemment, pour nous comprendre différemment, pour accepter une autre réalité bien plus large. Mais voyons à quel point nous sommes attachés à notre système de à notre schéma de réalité ici. Nous allons plus loin. Nous lisons dans cette leçon, n'est-ce pas une joyeuse nouvelle d'entendre qui n'est pas réel? Tout ce que tu crains n'existe pas. Mais attends. Si on est vraiment honnête, on peut entendre, non, ce n'est pas vraiment une joyeuse nouvelle. Nous voulons, moi j'ai envie d'être réel quand même. Je n'ai pas envie que Jésus, il dit en passant sa main dessus, n'est-ce pas une joyeuse nouvelle que tu n'es pas réel. Et donc, oui, bien sûr, pour une partie de nous, le Christ en nous, il dit, youpi, enfin, Bernard, Marilène, Hélène et Pierre, vous pouvez vous rendre compte que vous n'êtes pas réel. En tant qu'un corps, bien sûr. Mais n'allons pas trop vite. Constatons une certaine difficulté. Constatons, soyons honnêtes avec notre difficulté d'être aussi joyeux que Jésus voudrait qu'on soit en écoutant ces lignes. On continue. Il dit dans la dernière ligne ici, il dit, est-ce là le monde que je veux réellement voir? La réponse est sûrement évidente et nous devons aussi entendre la voix en nous qui dit non, ce n'est pas si évident que cela pour moi, merci Jésus. Je préfère quasiment un monde périssable qu'aucun monde du tout. Et c'est là où j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous avez plus peur du monde de périssable ou peur d'un monde périssable ou un monde irréel? Est-ce que vous avez plus peur d'un monde périssable et dangereux ou un monde que Jésus dit est irréel? Et nous devons nous poser sur cette question. L'ego va nous faire trébucher sur cette question. Le Christ nous va dire, t'inquiète pas, il y a un autre monde qui est magnifiquement beau. Mais il n'est pas matériel. Donc, si jamais vous vous êtes posé la question, mais pourquoi c'est si difficile de faire du progrès avec ce cours? Parfois oui, mais parfois non, c'est compliqué. C'est parce que dans quasiment chaque leçon, même on est au début du livre d'exercice, leçon 22, nous ressentons certaines difficultés à être entièrement d'accord avec lui quand il dit tu n'es pas joyeux, tu n'es pas entièrement sûr de ta réponse. Mais tu devrais être sûr que tu ne veux rien de ce monde, c'est un monde périssable, etc. Il y a une partie de nous qui voudrait lui donner raison, et une partie qui dit, bah non, en fait, pour être absolument honnête, Jésus, je ne suis pas prêt du tout. Et voilà. Donc, ce que nous devons faire ici, c'est de nous entraîner doucement et progressivement avec nos difficultés. Nous lisons dans le huitième paragraphe de troisième section du chapitre 4, hein, surveille attentivement et vois ce que tu demandes réellement, ce que tu penses réellement. Sois très honnête avec toi-même sur ce point, car nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre. Donc, comme Kenneth disait, ce n'est pas vraiment que Jésus doit pas cacher quelque chose de nous. Bien sûr, on comprend. Nous ne devons rien cacher de Jésus. Nous ne devons rien cacher de notre propre grand soi. Donc, c'est un appel à être honnête avec nous-mêmes par rapport à cela. Et l'invitation ici n'est pas d'arrêter soudain les pensées de vengeance. C'est précisément la prochaine leçon qui va nous offrir cette invitation d'abandonner ces pensées d'attaque. Mais sachant que la première étape est de les observer soigneusement, dans toutes ces différentes formes, même une légère pulsion d'irritation. Et de faire la paix, ça veut dire de ne pas juger ce que nous constatons en nous-mêmes, de regarder, comme je vous ai entraîné à faire dans d'autres leçons, ces expériences intérieures d'absence de paix, de la présence du conflit, du jugement et d'attaque, sans peur, sans jugement, et nous le regardons avec curiosité pour les explorer dans toutes leurs différentes formes et avec tendresse. Nous les regardons avec curiosité et avec tendresse. Voilà ce que nous faisons et nous allons faire avec cette leçon 22. J'aurais aimé vous offrir une méditation sur cela pour vous guider un moment pour faire une jolie méditation de contact, de curiosité et cœur, les trois C sur cette expérience de pensée de vengeance et d'irritation et d'attaque, etc. Donc fermons nos yeux et nous allons juste essayer de faire cette petite méditation qui est très sympathique et aussi assez puissante. Donc en fermant nos yeux, on essaie de retrouver notre silence intérieur. Si cela vous aide, vous pouvez suivre votre respiration pendant quelques cycles de respiration. Et en faisant, je vous invite à commencer à vous souvenir d'une situation qui vous a provoqué une certaine contrariété ou irritation. Non pas pour nous plonger dedans, mais pour nous souvenir qu'à ce moment-là, notre esprit n'était pas rempli des grandes pensées d'amour, de paix et de gentillesse. Au contraire, notre esprit était plutôt rempli de pensées de frustration, d'irritation, de contrariété, peut-être même d'attaque et de condamnation. Nous voulons surtout être très honnêtes par rapport à notre expérience et prendre contact avec ce fond en nous qui est tout simplement le fond de notre ego. Le fond de notre esprit, c'est pareil. Rien de grave. Rien de grave. Nous ne voulons rien cacher de nous-mêmes ou de notre guide intérieur. Et de toute façon, il s'agit déjà tout de nous. Soyons honnêtes avec ce premier contact avec ce qui est en nous. Nommons, si nous voulons, les expériences négatives que nous avons eues. Et maintenant, soyons curieux par rapport à ces expériences. Au lieu d'être gêné, contrarié du fait d'avoir trouvé de la colère, de l'attaque en nous, soyons curieux. Quelle est cette expérience d'avoir des pensées d'attaque, de jugement et de condamnation? Où est-ce que nous le ressentons dans le corps? Peut-être que cela nous fait une certaine tension au niveau des épaules, de la nuque, une tension dans l'estomac, dans l'abdomen, ou une douleur derrière les yeux, d'avoir de telles pensées, de telles émotions. Soyons curieux, comme si nous voulons vraiment découvrir cette expérience dans toutes ses différentes dimensions. N'ayons pas peur. Plus nous arrivons à nous familiariser avec cette expérience, plus nous allons pouvoir décider de ne pas entretenir de telles pensées dans l'avenir. Et maintenant, regardons l'ensemble de ce que nous sommes en train de faire. À vouloir guérir notre esprit, regardons tout cela avec douceur et tendresse, en ouvrant notre cœur à nous-mêmes et notre expérience très humaine de ce monde, très humaine de la séparation. Cette dimension n'est pas facile. Et nous pouvons nous en guérir plus facilement si nous puisons dans la compassion qui est déjà dans notre cœur. C'est ce que nous nous invitons à faire maintenant. Contact, curiosité et cœur. Contact, curiosité et cœur. Une approche très puissante qui peut nous aider à guérir toutes nos expériences de la séparation et de l'esprit séparé. Et comme vous vous sentez prêt, je vous invite à remettre du mouvement dans vos jambes, dans vos mains, dans votre corps, et enfin d'ouvrir vos yeux. Excellent. Continuons. Et voici la leçon 23. Je peux échapper du monde que je vois en abandonnant les pensées d'attaque. Une leçon très riche et très claire, selon Kenneth Bopnik, c'est aussi l'une des leçons les plus importantes qui nous parle de l'origine de notre mal-être dans le monde et aussi de comment changer entièrement notre expérience du monde. Donc, pour faire une synthèse brève de cette leçon, nous pouvons comprendre que si nous voulons trouver la paix de Dieu, nous devons travailler avec nos pensées et pas avec le monde. Nous devons comprendre que le monde ne peut pas changer et ce n'est pas le monde problème qui doit changer parce que le monde est un effet de nos pensées. Nous devons comprendre que nous pouvons changer entièrement nos pensées qui mènent à notre expérience du monde et nous devons comprendre que ce monde contient déjà toute la beauté et la bonté que nous cherchons. Il suffit de changer nos pensées pour découvrir la beauté et la bonté qui sont déjà en nous, dans notre esprit, que nous trouvons par la suite dans le monde. Le grand scoop de cette leçon, vraiment le message peut-être essentiel et décapant, c'est que l'action n'est pas dans mon monde. Toute l'action est vraiment dans l'esprit, encore plus que peut-être les leçons précédentes. Donc, ce n'est pas une question de changer le monde, Jésus dit. Et si tu veux échapper le monde, au monde, échapper du monde, très bien. Touche pas au monde. Tu n'as pas besoin de rien faire au monde. Ne change pas tes relations, ne change pas ton travail, ne change pas la ville où tu habites. Il suffit de changer tes pensées. Or, nous, presque toute notre attention tous les jours est portée sur l'extérieur. Ce que nous allons faire aujourd'hui ou demain, tous nos projets, c'est par rapport à un changement que nous voulons produire dans ce monde. Dans quel but? Toujours quelque part. Pour être plus heureux, pour avoir quelque chose, pour avoir une meilleure situation professionnelle, pour avoir plus de retraite plus tard. Il n'y a aucun mal. Il faut certainement pas abandonner ses projets, mais il faut s'observer faire en poursuivant nos projets. Cette leçon est la suite logique de la leçon 22 où nous avons lu l'idée d'aujourd'hui décrit exactement la façon dont quiconque garde des pensées d'attaque dans son esprit doit voir le monde. Donc, ici, c'est la conclusion logique ou l'étape logique. Donc, par la suite, c'est l'invitation à abandonner ses pensées. C'est un message radical et nous touchons, nous ressentons vraiment la radicalité de ce message dans le premier paragraphe où il dit: je peux échapper du monde que je vois en abandonnant les pensées d'attaque, rien d'autre ne marchera. Et au lieu de glisser sur des phrases comme ça, on doit s'arrêter un instant et dire: mais est-ce que je pense vraiment que rien ne marchera dans ce monde? Et je pense que vous, comme moi, on va dire: ben non, j'ai encore plein d'espoir, plein de rêves dans ce monde, plein de projets pour ce monde. Je pense encore qu'il y a des choses qui marcheraient pour moi, qui marcheront pour moi. Donc, on doit juxtaposer ce que Jésus dit ici avec ce qui est un genre de dynamique innée et automatique dans l'esprit de chacun. Maintenant, comment comprendre ce qu'il dit ici? Il faut revenir à un principe psychologique du cours. Cole Miracle est une psychologie spirituelle et on voit peut-être très bien cet aspect métaphysique de sa psychologie ici. Jésus nous apprend qu'en fait, nous ne sommes jamais en train d'éprouver le monde directement. Il se passe des choses dans ce monde, nous avons une réaction. Donc, nous avons l'impression que si nous pouvons changer certaines scènes extérieures, nous allons avoir une expérience différente. Jésus nous dit qu'il y a toujours l'intermédiaire de nos pensées entre notre réaction et entre ce qui se passe dans le monde et notre réaction. Nous réagissons non pas directement par rapport à ce qui se passe dans le monde, mais par rapport à nos pensées, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Nous réagissons toujours par rapport à nos pensées. Et ces pensées peuvent appartenir soit à l'ego et l'esprit de la séparation, donc l'esprit de la culpabilité, du danger, de la vulnérabilité, ou ces pensées peuvent être issues ou peuvent surgir de la partie juste de notre esprit, lié à l'unité parfaite en nous, donc à l'amour, la perfection, à la beauté et la bonté, qui nous ferait voir le monde d'une façon complètement différente. J'ai une petite expérience ici que je trouvais amusante. Une idée, d'un exercice que je me disais: mais comment est-ce que je peux rendre cette idée plus vivante? Ce n'est pas évident. Jésus voudrait qu'on comprenne que, à la base, quand nous regardons le monde et nous n'avons pas une bonne expérience, c'est parce que nous réagissons toujours à un genre de traumatisme ontologique dans notre esprit qui fabrique un genre de schéma, une voile de perception, une coloration sur tout ce que nous vivons ici. Donc, nous en avons déjà parlé dans les premières leçons. Essayons d'imaginer le même phénomène, mais de l'autre côté, de la façon totalement opposée. Imaginons un heureux événement, événement. Imaginons l'événement le plus heureux que vous puissiez imaginer. Essayons de multiplier ça par 10. L'effet euphorique, l'effet de bonheur et de paix. Essayons de multiplier ça par 10. Et après par 100. Et après par 1000. Et imaginez maintenant comment nous regarderons le monde si nous savions que cet événement heureux s'était produit dans notre vie, dans notre existence. Est-ce que vous pouvez commencer à imaginer que cela pouvait colorer plus positivement tout ce que vous comprenez de ce qui se passe dans le monde? Parce qu'il y a un événement heureux qui nous attend, et c'est le retrouvailles avec notre propre perfection, notre propre innocence. C'est l'expérience du souvenir de l'amour de Dieu, l'amour parfait, l'amour qui nous aime au-delà d'absolument tout. Cet événement-là changera tout entièrement notre façon de vivre dans ce monde et de voir ce monde. Et c'est peut-être en réfléchissant à ces phénomènes dans notre esprit, cette façon dont notre esprit fonctionne, en choisissant entre une trame basée sur une tragédie, un désastre, et une autre basée totalement sur un événement d'une beauté et d'une joie absolument extraordinaire, en comprenant comment le choix de cette trame influence entièrement notre expérience du monde, que nous pouvons comprendre comment ce genre de leçon peut être vrai. Ce n'est pas ce monde qui est l'origine de notre expérience. Donc, si nous voulons échapper aux douleurs de ce monde, il faut changer de système de pensée. Et le système de pensée que nous avons choisi sera toujours dévoilé par nos pensées d'attaque. Ouais. Et sera toujours renforcé par nos pensées d'attaque. Donc, très bien. Avançons un petit peu. On peut regarder quelques petites phrases de cette leçon. La première phrase ici, qui est intéressante, c'est celle-ci. Chaque pensée que tu as forme un segment du monde que tu vois. Je suis un peu ému parce qu'en fait, je crois que j'aurais aimé vous donner quelques instants à réfléchir à ce dernier exercice que je vous ai invité à faire. Je ne sais pas si vous avez eu une réaction à ce que je vous ai demandé de faire. Si oui, vous pouvez mettre votre réaction dans le fil de chat et je vais essayer de lire au fur et à mesure, lire tout à l'heure. Mais c'est véritablement ce genre de dynamique qui se produit, qui est en train de déterminer nos réactions par rapport au monde, tout notre vécu, en fait. C'est le choix entre une tragédie cosmique et une bonne nouvelle cosmique, une bonne nouvelle métaphysique, mais comment dire, c'est quoi l'inverse d'une tragédie, d'une explosion de joie, c'est le retrouvailles avec nous-mêmes, avec notre source, avec le bonté qui est notre véritable source. Voilà. Continuons. Très bien, donc je vous ai dit, on va regarder cette phrase. Chaque pensée que tu as forme un segment du monde que tu vois. Kenneth Wapnick nous met en garde dans son livre de ne pas croire que cela veut dire que tu es responsable pour l'accident de train qui vient de se produire ou pour le fait que une personne qui vous a irrité et pour qui vous avez eu une pensée de jugement s'est fait mal. Donc, il sera facile de faire un amalgame et de penser que nous sommes responsables pour ce qui est arrivé à cette personne, du fait d'avoir pensé de manquant de gentillesse envers cette personne. Je relis la phrase: chaque pensée que tu as forme un segment du monde que tu vois. Ce n'est pas notre pensée qui produit les événements ici. Kenneth voudrait qu'on pense que le segment du monde que tu vois, avec l'accent sur le que tu vois, chaque pensée forme un segment du monde que nous éprouvons par notre perception. C'est un segment de notre expérience du monde ici. Sinon, cela pourrait nous mener très vite vers un sentiment de culpabilité ou de peur de notre propre pensée. Donc, lisons: chaque pensée que tu as forme un segment de notre expérience du monde. Dans notre deuxième paragraphe, nous lisons: le monde est incapable de changer. Donc, il nous met en garde ici de ne pas arrêter nos projets maintenant que nous apprenons que cela ne peut rien changer. C'est par nos projets que nous allons continuer à apprendre nos leçons. Toutes les personnes qui ont vécu des puissantes expériences de transformation de l'esprit sont restées très engagées dans ce monde. Ils ne se retirent pas du monde. Soit ils continuent à enseigner d'une façon très, très engagée, comme Ramana Maharshi ou Nisargadatta, ou soit ils sont très engagés d'une autre façon, comme Kenneth Wapnick avec son centre. Donc, nous n'avons pas besoin de craindre qu'à force de faire ces leçons, nous allons retirer du monde. Le monde est incapable de changer. Nous pouvons dire à Jésus: mais si le monde change, le monde, j'ai vu beaucoup de changements dans le monde depuis mon enfance même. Il ne veut pas dire dans ce sens-là, les scènes changent, mais le mécanisme et le fond derrière ces scènes ne changent pas. Il veut dire que même si les scènes changent, cela ne changera rien pour toi en termes de ton expérience. Donc, le monde est incapable de changer fondamentalement au niveau de ces mécanismes de fond pour nous satisfaire, puisque c'est un effet. La vraie source de tout est dans notre esprit. Mais encore, cela ne veut pas dire qu'on doit se désengager de nos projets. Il peut avoir une certaine déception en pensant que le monde n'est pas capable de nous satisfaire, mais c'est une déception nécessaire pour ouvrir notre esprit à la vraie source du vrai bonheur, pour le trouver là où c'est, à l'intérieur de notre esprit, et de commencer à nous désengager, pas désengager, mais nous détacher de l'idée que nous allons trouver le bonheur que nous cherchons une fois que nous avons réussi tel ou tel projet. Encore, cela ne veut jamais dire que nous devons abandonner nos projets, parce que le Saint-Esprit en nous peut se servir de tout, tout, tout. Si vous êtes pour nous apprendre nos leçons et aussi pour apprendre aux autres, pour nous mettre à l'endroit où nous devons être, pour communiquer les messages que nous sommes censés communiquer. Nous lisons dans le deuxième paragraphe: il est certes utile de changer tes pensées au sujet du monde. Et j'ai une question pour vous. Essayons de réfléchir, voilà, à d'autres pensées que vous pouvez avoir au sujet du monde. Quelles sont Il suggère par cette phrase: il est certes utile, je le relis, de changer tes pensées au sujet du monde. Quelles sont ces autres pensées? Il suggère qu'il y en a. Quelles sont les autres pensées que nous pouvons avoir au sujet du monde? Les Lego nous en a proposé plein. C'est le monde de vengeance, c'est le monde de danger, c'est le monde où nous allons nous éclater, nous allons trouver notre bonheur, c'est le monde où nous devons nous défendre. Et donc, Jésus nous invite à ouvrir notre esprit à d'autres sujets, à d'autres pensées au sujet du monde. J'en ai deux ici, ce que je vais nous avancer un petit peu sur notre parcours ce soir. C'est juste de voir. J'apprécie beaucoup vos commentaires. Je crois que je vais les lire. Hein. Je vais me tourner vers ces commentaires après, dans la deuxième partie de la séance. Merci pour votre compréhension. J'ai deux suggestions. Par exemple, ce monde n'est pas notre véritable maison. Nous venons d'un ailleurs, de notre lieu de sécurité, de paix, d'abondance, d'un genre d'amour infini et éternel. Ça, c'est une idée, que ce monde n'est pas notre vraie maison et nous avons une autre maison, une autre pensée que nous pouvons avoir par rapport à ce monde, et que ce monde n'est pas une prison. Il n'est pas un lieu de tous les dangers, mais c'est un lieu d'apprentissage où nous pouvons apprendre sur la présence de l'amour et de la paix de Dieu, là où nous sommes tous les jours, par exemple. Et une dernière... Ah oui, ça c'est plutôt important. Nous lisons dans le paragraphe 5, l'idée d'aujourd'hui introduit la pensée que tu n'es pas emprisonné dans le monde que tu vois. Parce que sa cause peut être changée. Ce changement requiert d'abord que la cause soit identifiée, puis lâchée, afin qu'elle puisse être remplacée. Cette de dernière phrase était la base d'un bon nombre de stages que Kenneth Wapnick a fait sur les trois étapes du pardon. Ce changement, je relis, requiert d'abord que la cause soit identifiée, hein, une première étape, puis lâcher, deuxième étape, afin qu'elle puisse être remplacée, troisième étape. Pour le lire, pour vous expliquer cela très synthétiquement, la première étape du pardon ici, c'est de reconnaître que le problème est dans nos pensées, et pas chez les autres ou dans le monde. Ça, c'est quand Jésus dit la cause, la vraie cause soit identifiée. Puis lâcher, c'est la deuxième étape. C'est là où je vois que mon ancien but, je ne le veux plus, je lâche prise de toutes ces pensées de jugement, d'attaque, de toute mon ancienne façon de faire, puisqu'elles me font mal. Je lâche prise sur cette vraie cause qui sont mes pensées d'attaque. Dernière étape, j'invite le Saint-Esprit ou Jésus, mon grand soi, de remplacer mes pensées par les siennes. Je veux ses pensées maintenant, pas les miennes. Et ainsi, comme selon cette dernière phrase-là, mes pensées seront remplacées par les siennes. Impeccable. Donc voilà une lecture de cette leçon pour les personnes qui font cette leçon pour la première fois. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne pratique de la leçon 23. Et maintenant, pour passer quelques minutes avec les étudiants plus avancés, nous lisons, si les pensées d'attaque sont la cause du monde que tu vois, et on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment ce que nous pensons? Nous pensons tous, je pense à la personne, que c'est quand même le monde qui est responsable pour notre expérience. Est-ce que nous pensons vraiment que ce sont nos pensées qui sont la cause du monde que nous voyons? Nous avons tous vécu des expériences personnelles assez douloureuses, d'autres très agréables. Et nous avons l'impression que c'était toujours le monde qui était en train de changer et nous étions en train de réagir au monde. Et selon Jésus, ce n'est pas le cas. Oui. Et nous sommes toujours en train de réagir à quelque chose à l'intérieur que nous projetons ensuite à l'extérieur. Ce sont nos pensées qui causent notre expérience de ces scènes changeantes du monde. Les scènes changent, mais ce sont nos pensées qui l'interprètent d'une certaine façon pour produire telle ou telle expérience. J'essaie juste de voir où je peux aller avec vous dans le temps qui reste. Nous lisons dans le deuxième paragraphe, rien ne se sert de se lamenter sur le monde. Et personnellement, je trouve que cette petite phrase est un genre de mini-bombe. Si ce n'est pas une grande bombe, c'est au moins une petite. J'ai très envie de vous demander tout de suite, mais c'est quand la dernière fois que vous vous êtes lamenté sur le monde? Surtout en cette période de guerre au Moyen-Orient, de guerre en Ukraine, et il y en a probablement plein d'autres guerres, il y en a certainement au Soudan. Est-ce que ça revient, ça relève à quand? Ça revient à quand? Je me confonds. Alors, c'était quand la dernière fois que vous vous êtes lamenté sur le monde? Je vous laisse réfléchir quelques questions, quelques instants. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on lit ce soir, rien ne sert de se lamenter sur le monde. Oui, j'ai une personne qui dit dans le feed de chat il y a quelques minutes. Pas plus tard que ce soir. Mais oui. Parce que vous avez peut-être regardé les infos juste avant de venir en séance. Notre séance a lieu à 8 heures. Peut-être vous avez vu les infos juste avant. Comment comprendre ce qu'il dit ici? Oui, merci Mathieu. Comment comprendre ce qu'il dit ici? Il se passe des choses terribles dans ce monde. C'est vrai, ce monde n'a pas été produit, fabriqué, imaginé à partir d'une pensée d'amour. Nous pouvons comprendre, nous pouvons nuancer, nous pouvons ajouter ces deux pensées qui peuvent nous aider. Tout d'abord, nous pouvons comprendre que ce n'est pas le monde qui détermine notre expérience. Ce n'est pas le monde qui détermine l'expérience de chacun qui se trouve dans une situation très, très difficile. C'est toujours son choix d'une pensée de séparation ou d'une pensée d'unité qui détermine d'abord le schéma de pensée, le trame de pensée dans son esprit. Par la suite, ce schéma va naturellement guider ses perceptions, ses sens, toutes ses pensées vers une conclusion, vers une expérience. Mais il y a en amont un choix fondamental, soit d'un soi coupé de sa source en Dieu, soit un soi intimement lié dans l'esprit avec Dieu, le Saint-Esprit et Jésus. Deux trames de pensée entièrement différentes, deux expériences entièrement différentes. Relisons cette phrase dans cette lumière. Rien ne se sert de se lamenter sur le monde. Ajoutons cette idée ici, chacun réagit uniquement à la douleur et la tragédie de séparation dans son esprit. Et puis, il voit dans les images du monde les traces de cette tragédie. Oui. Et nous pouvons commencer à voir que oui, il se passe, il va se passer beaucoup de choses terribles dans ce monde. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes obligés d'avoir des expériences de tragédie et de catastrophe. Ce monde n'était pas fait comme un paradis. Ce monde n'était pas fait pour fonctionner ou pour marcher. J'avais un extrait sur cela, mais je ne le trouve pas pour l'instant. Ce n'est pas grave. Nous lisons un peu plus loin dans le paragraphe 2. Le monde est incapable de changer. Le monde change en apparence, mais pas en fond. Le monde n'est pas fait pour marcher et n'a pas besoin de marcher. Voilà, c'est ça que je cherchais. Le monde a été fait comme une attaque contre Dieu. Il symbolise la peur. Nous lisons je pense que je vous l'avais déjà lu peut-être dans la dernière leçon. Le monde a été fait comme une attaque contre Dieu. Il symbolise la peur. Il n'était pas fait pour marcher. Il n'a pas besoin de marcher. Donc cela peut nous aider pour les étudiants d'avancer à modifier, à nuancer leur façon de voir ce monde. Quand nous comprenons qu'il n'est pas fait pour marcher. Et il n'a pas besoin de marcher parce qu'il est donné à chacun tout ce qu'il faut pour trouver sa profonde paix intérieure. C'est une idée absolument radical, absolument radical. Et cela n'est pas une raison d'abandonner les projets d'aider les autres ou ces principes, mais cela peut certainement nous aider à imprégner toutes nos actions d'amour et de tendresse et de compréhension, de patience, mais pour tout le monde, y compris pour les bourreaux et les soldats. Voilà. J'avais envie de vous inviter à faire un petit exercice avec moi parce que c'est une leçon et je peux échapper du monde que je vois en abandonnant les pensées d'attaque. J'avais envie de vous inviter à penser à la dernière fois que vous avez eu des pensées d'attaque et pour vous inviter à voir si vous aviez vraiment envie de les abandonner. Lequel de ces jugements est-ce que vous êtes prêt à abandonner? Ça, c'était ma question, mais je préfère finir avec une méditation. Nous n'avons pas encore fait une méditation. Donc, pour finir, je vous invite, si vous avez envie, de fermer vos yeux quelques instants. Et nous allons essayer de faire justement une méditation où nous allons essayer de suivre notre guide dans son invitation à abandonner nos pensées d'attaque. Donc, si vous voulez bien, juste peut-être fermer les yeux ou trouver un peu de calme. Et en fermant les yeux, cela nous aide souvent à nous intérioriser, à faire abstraction de l'extérieur, à trouver un lieu de calme et de silence en nous. Et dans cet endroit de calme et de silence, nous pouvons nous rappeler un moment dans la journée ou récemment où nous étions tentés d'être dérangés par telle ou telle scène dans le monde ou dans notre vie. Nous avons été peut-être tentés de juger certaines personnes dans ces scènes. Nous avons été peut-être tentés de condamner certaines personnes en pensant qu'ils devraient faire mieux ou différemment. Il y a eu peut-être dans notre esprit des pensées d'attaque ou des pensées de jugement, des pensées de différence, peut-être des pensées qui ne regardaient que les faiblesses et les erreurs chez les gens, chez les uns, chez les autres. Ce sont des pensées qui ne voyaient pas la partie de Dieu en l'autre. Et oui, nous avons reconnu leur erreur, mais avons-nous reconnu aussi premièrement notre erreur? Notre erreur est de nous voir encore coupés de Dieu, de son amour, coupés du Christ en nous, coupés de notre grande soi. Puis nous avons vu d'autres personnes coupées de Dieu, coupées de leur grande soi, coupées du Christ en eux. Et maintenant, nous voulons lâcher prise de toutes ces pensées, de toutes ces erreurs, les erreurs de nos attaques sur les autres. L'erreur de penser que nous étions coupés de notre soi en Christ. L'erreur de penser que les autres étaient coupés de leur soi en Christ. Nous voulons lâcher prise de toutes ces pensées et comprendre ce monde autrement. Par les yeux qui comprennent la confusion dans l'esprit de chacun, par les yeux qui comprennent la douleur dans l'esprit de chacun. Par les yeux qui comprennent notre douleur et notre confusion. Nous voulons mettre toutes ces pensées de côté et accepter la paix derrière les scènes troublantes du monde. Nous voulons lâcher prise de toutes nos pensées qui cherchaient avoir le conflit dans le monde. Et voici un passage de la leçon 185 pour finir cette méditation. Tu veux la paix de Dieu, comme la veulent aussi tous ceux qui semblent chercher les rêves. Pour eux, aussi bien que pour toi, tu ne demandes que cela quand tu fais cette requête avec une profonde sincérité, car ainsi tu touches à ce qu'ils veulent réellement et tu joins ta propre intention à ce qu'ils cherchent par-dessus tout qui leur est peut-être inconnu, mais est sûr pour toi. Tu veux la paix de Dieu. Et nous pouvons répéter, je veux la paix de Dieu. Merci. Maintenant, si vous souhaitez rester dans cette méditation, je vous invite à baisser le son sur votre appareil ou à quitter la séance. Avec ces deux leçons, je pense que nous sommes très bien partis pour commencer cette profonde transformation de notre esprit. Ces deux leçons soutenues par les leçons depuis la première leçon nous donnent une très bonne base pour identifier le problème et pour le défaire à la racine. La leçon 22, je ne vois pas un monde de paix, mais un monde d'attaque et de vengeance. Et la leçon 23, ce sont nos pensées d'attaque nées de la séparation qui produisent cet état d'esprit. Il suffit d'abandonner nos jugements et nos pensées d'attaque et la paix reviendra à notre esprit. Voilà, je nous invite tous à une très bonne pratique de ces 23 premières leçons et au plaisir de vous voir pour les leçons futures. Très bien. Maintenant, chers amis, oui, il nous reste, désolé, il est déjà, oui, 9h15 presque. Merci pour votre patience. Je ne sais pas si je me suis vraiment très bien adapté à ce nouveau programme. Voilà, entrons dans dans la deuxième partie de cette séance pour vous donner une chance de vous exprimer quand même et aussi pour me donner quelques minutes pour regarder les remarques que vous avez déjà faites. Oui, il faut pas contre que je j'ouvre. Oui, ils ont changé les boutons. Je crois que c'est ici que je clique couper le micro. Je pense que vous pouvez maintenant changer le forme et l'emplacement des boutons. Je crois que vous pouvez ouvrir vos micros maintenant. Donc, nous entrons pour celles et ceux qui sont ici pour la première fois. Tout d'abord, merci beaucoup d'être ici. Voilà, maintenant c'est à nous, à vous. Si vous avez envie de ouvrir votre micro et me donner un retour sur cette séance, je voudrais bien vous entendre. Et aussi, ou sinon, si vous avez envie si vous avez aussi envie de juste mettre un petit commentaire avec une question, je serais heureux de vous lire. Et je vais essayer de rattraper vous. Ah oui, je vois Stéphane. Je ne sais pas si. Non, Stéphane, il est déjà parti, j'ai vu. Oui. Désolé, peut-être vous allez écouter ceci en replay. Il dit, cette nuit, j'ai pensé que je risquais de perdre mon travail et j'ai senti de la peur. Je suis prêt à reconnaître que c'est un esprit de vengeance et non d'amour. Très bien, Stéphane, si vous écoutez ceci en replay, c'est très bien, c'est courageux. Parfois, on n'a vraiment pas envie de savoir que oui, même la peur fait partie d'un esprit de vengeance. Encore, ce n'est pas un problème d'avoir des pensées de peur ou de tristesse, ou de honte ou de culpabilité ou de vengeance ou de colère. Ce n'est pas un problème. Il sera impossible de ne pas avoir de tels genres de pensées dans l'expérience de ce monde. Donc, Jésus nous demande simplement d'être honnête et de nous poser la question, est-ce que c'est ce que nous voulons continuer à garder dans notre esprit? Quand nous voyons les dégâts que cela fait à notre expérience et le prison dans lequel ça nous garde, aucun jugement quelconque, il nous invite juste de regarder ce qui se passe en nous et nous pose la question. En voyant vraiment que cela vous fait, quand vous constatez l'effet de la peur, l'effet de l'attaque, l'effet de la culpabilité, etc., sur votre esprit, est-ce que vous avez envie de le garder? Et on a naturellement le choix. On peut dire, non, je n'ai plus envie de garder ce schéma de pensée. Voilà. C'est pas juste une pensée, c'est tout un schéma de pensée que nous abandonnons et nous ouvrons encore une autre partie de notre esprit à la lumière de notre grand soi, à la lumière de l'Esprit juste, à la lumière du Saint-Esprit, à la lumière de Jésus, à la lumière de la vérité, à la lumière du Christ en nous. Une autre personne, tous les jours ça arrive, irritation. Et oui, absolument, je vois de plus en plus la vengeance derrière, tellement précieux. Merci. Merci, Mathieu. Claude, oui, ce matin même, par rapport à une irritation, et il s'agissait nettement de vouloir me venger. Ok. C'est bien de savoir que c'est ce qui nous remplit et c'est très bien et voir l'effet que cela lui produit en nous. Des fois, ça envoie une décharge d'adrénaline et on pense avoir une grande force, une grande puissance. C'est la nature extrêmement séducteur de ces pensées aussi de vengeance et de défense. Mais cela n'est pas la paix de Dieu. Et cela va continuer juste à entraîner la même pensée. C'est un cycle, c'est une boucle quand on commence. La seule façon dont on peut sortir, c'est de vouloir avoir une autre expérience, c'est de ne pas vouloir continuer avec cette expérience. Encore une autre personne. Merci Guy, face à l'éternité du monde, on n'existe pas comme tout ce qui naît et meurt. Exactement. Encore une autre personne, en relisant la leçon 23, Jésus parle aussi des notions de cause et effet. Ouais. Le monde que nous. Oui, c'est des leçons. Ces deux leçons sont sur le principe de cause et effet, tout à fait. Qui se dit beaucoup plus facilement en anglais. In English, we always talk about cause and effect, mais je l'entends beaucoup, beaucoup moins en français, donc j'hésite de l'utiliser en pensant que vous n'avez pas l'habitude. Je dis souvent, par exemple, l'origine de notre expérience au lieu de dire le cause. En anglais, par exemple, on dit très facilement What's the cause of your experience? What's the cause of your feelings? En français, on ne peut pas dire quelle est la cause. J'ai cherché avec DeepL pour voir comment il le traduit. Il n'utilise jamais le mot cause. Quand j'ai dit cause, il le traduit qui façonne ou qui détermine. Ce n'est pas la même chose. Ouais. Et donc en français, on n'a pas l'habitude d'utiliser ce langage. Donc j'hésite de l'utiliser, mais peut-être je dois le faire davantage. Le monde que nous voyons est un effet de nos pensées et non l'inverse. Nos pensées sont la cause du monde. Je trouve cela très inspirant pour comprendre ce que j'explique. Très bien. Oui, ça demande vraiment beaucoup de réflexion, ces principes. C'est des principes très, très subtils. On a tellement, tellement l'habitude de vivre des choses dans ce monde, à cause de ce monde, aux mains de ce monde, que cela prend du temps pour revenir à l'intérieur et dire, mais quelle est la partie de moi qui est en train d'interpréter ce qui m'arrive, d'interpréter ces différentes choses qui viennent de changer dans mon monde pour avoir produit mon expérience, le produit que je suis en train d'avoir. Parce que ce n'est pas parce que j'ai gagné beaucoup d'argent que forcément je suis heureux. Il y a une interprétation de l'argent, par exemple, tu gagnes au loto, même un petit loto, on pense immédiatement à bonheur. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'on ajoute quelques zéros dans votre compte en banque, pourquoi est-ce que soudain ça change mon état d'esprit? C'est parce qu'il y a un tas de différentes pensées qui disent, maintenant je vais pouvoir faire ceci, cela, je vais pouvoir quitter mon travail, mais si j'adore mon travail, si j'ai gagné bien ma vie. Ou si j'ai déjà beaucoup d'argent, peut-être ça ne change rien pour moi. Peut-être pour un homme vraiment richissime, gagner un loto de 100 000 euros, peut-être ça lui laisse complètement indemne. C'est toujours une question de perception et d'interprétation. Combien de fois est-ce que nous avons entendu des témoignages des personnes qui ont vécu des maladies très graves et qui ont dit qu'à la fin, c'est la meilleure chose qui aurait pu leur arriver, qui puisse leur arriver? Tellement leur expérience était riche et transformatrice par rapport à cela. Or, en temps normal, on nous annonce une grave maladie, on n'est certainement pas rempli de gratitude et de joie. Donc, tout est toujours une question d'interprétation et de perception. Même si on peut être d'accord que généralement, on aime l'idée de gagner de l'argent. On aime l'idée que les résultats de nos examens médicaux sont positifs. Positifs dans le sens qu'on est en train de guérir. Merci. Oui. Très bien. Très bien. Donc, je ne vois pas d'autres remarques. Qui nécessite un développement de ma part. Je ne sais pas si vous avez de votre côté envie de dire ou d'écrire quelque chose. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? En fait, j'avais une. Pour que nous puissions dire nos au revoir tout doucement, si vous voulez ouvrir votre micro, juste pour faire un petit coucou, un petit smiley en passant.